Cap Nature.
Cap Nature Sandrine, bonjour.
Oui, bonjour madame. Je vous appelle, je voudrais juste savoir si vous avez été dévalisée ou s'il y a encore des choses en rayon.
Alors, on a été dévalisée.
Je sais que certains d'entre nous ont des doutes sur ce que nous allons faire. Nous ne serions pas des hommes si nous n'en avions pas. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera son devoir.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne en attendant que le monde change. Moi, c'est Philippe et désormais je vous présenterai chaque jour cette quotidienne puisque Jean-Pierre a dû reprendre son travail. Alors au programme aujourd'hui des chroniques assez diversifiées faites par le réseau Radio Campus France, il y aura du cinéma, une bande dessinée, une petite lecture et une série radiophonique. On va commencer par nos amis de Radio Campus Paris avec la rubrique « On révise nos classiques », puis on ira découvrir une bande dessinée par nos amis de Radio Campus Poitiers et on retrouvera Marie de chez nous qui vous fera une petite lecture orientale. Et nous, on se retrouve juste après. Restez confinés, on s'occupe de tout sur Radio Campus Tours.
C'est le trésor le plus prodigieux qui ait jamais existé.
Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça ?
Des protecteurs de trésors, plutôt.
C'est de la merde!
J'ai rien compris.
Tu ne comprends pas! Tu expliques mal! Tu ne sais pas expliquer!
Faut réviser nos classiques parce que ça va pas du tout.
Oh putain, moteur!
Ce film se déroule dans le passé, mais tu es un peu perdu. On va tenter de remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, Les Aventures de Robin des Bois, un film de 1938 réalisé par Michael Curtis, avec Errol Flynn dans le rôle de Robin et Olivia de Havilland dans le rôle de Marianne. Alors, dans le film, il est précisé que l'action se passe en 1191 dans le nord de l'Angleterre au moment de la Troisième Croisade.
On vous la fait rapido. Le roi Richard Cœur de Lion est parti en croisade. Il est fait prisonnier et pendant ce temps-là, le frère du roi, Jean Santerre, décide de prendre le trône de Richard et d'opprimer le peuple en lui faisant payer des impôts en masse. Dans la forêt, un gars super chouette mène la révolte.
C'est Robin de Locksley.
Robin
de Locksley.
En fait, on commence à entendre parler de lui 50 ans plus tard.
Sa légende a eu moult échos par la suite, et à toutes les sauces, sous forme de ballades ou de chansons populaires, jusqu'à certaines récentes plus ou moins réussies.
Mais c'est chelou, t'as vu, c'est l'Angleterre. Il fait beau tout le temps dans le film, c'est pas logique.
Non, c'est vrai, c'est pas logique. On s'est dit au début que c'était peut-être pour situer le spectateur à l'époque du pomme.
Quoi ?
Le petit optimum médiéval. En gros, c'est une période où il a fait plus chaud en Europe entre le 11e et le 14e siècle.
C'est un moment que les archéologues arrivent bien à comprendre, notamment en examinant les végétaux qui pourraient être cultivés ou en observant l'évolution du niveau des eaux.
Et puis après, on s'est dit que c'était probablement plutôt parce que le film a été tourné en Technicolor.
C'est un procédé qui permet de tourner des films en couleur et qui est inventé quelques années seulement avant ce tournage, en 1935.
Eh bien merci Michel.
C'est vraiment très pratique, mais ce procédé nécessite beaucoup de lumière pour bien imprégner la pellicule. D'où le soleil.
Beaucoup.
Beaucoup de soleil.
D'où l'intérêt d'aller tourner en Californie.
Les contingences techniques ont beaucoup d'autres conséquences sur la représentation du passé dans ce film. Par exemple, la salle du banquet du château paraît très très haute de plafond.
Alors même si au Moyen-Âge on savait construire très haut, comme en témoignent les cathédrales, les salles des châteaux ne l'étaient pas autant.
Et puis surtout, il aurait fallu des piliers au milieu de la salle pour que la charpente tienne.
T'as mis des piliers ? J'ai pas de piliers !
Akeneni !
Mais pourquoi ils ont fait ça du coup ?
Et bien sûrement parce qu'ils éclairaient la scène par le haut, grâce à d'énormes projecteurs, et que du coup, bah, ils ne pouvaient pas mettre de plafond à la salle.
D'où l'impression de murs sans fin.
Autre exemple, les couleurs des costumes piquent un peu les yeux.
Alors ok, on maîtrisait la teinture textile au XIIe siècle et on utilisait des produits naturels comme le safran qui donnait une couleur rouge au tissu.
Mais de là à créer des costumes flashy soirée disco, faut pas pousser mémé dans les orties.
Okay. Orties qui donnent aussi de très belles couleurs.
Et là du coup c'est pareil, c'est parce que le costumier il voulait se faire plaisir.
Peut-être oui, mais c'est aussi que quant à la possibilité de tourner des films en couleur et que la grande majorité des films de l'époque sont tournés en noir et blanc,
bah tu mets le paquet.
Ah bah justement, puisqu'on parle de paquet, les collants moulants.
Coucou.
C'est Moyen-Âge ou pas ?
Non, c'est pas Moyen-Âge, non. Mais c'est Errol Flynn qui les porte, alors ça va.
Et en plus, c'est ce petit caleçon qui est de couleur verte qui déterminera pour toujours
Forever Never.
L'association Robin égale vert dans les inconscients collectifs.
Bon, revenons un peu sur ce château. Il est tout gris, tout froid et très austère.
Pourtant, là, ils avaient un bon alibi pour se lâcher, puisque au mur et au sol, en général, il y avait des tapisseries et des tapis.
C'est magnifique.
Et pas des peaux de tigre comme l'a si joliment pensé Marianne pour le décor de sa chambre.
Et tout ça, pourquoi ? pour s'isoler du froid.
Froid qu'ils n'ont pas l'air de craindre par ailleurs, puisque les fenêtres n'ont tout simplement pas de carreaux.
Bravo !
Et il est loin, loin de la ville, ce château.
En fait, bien souvent, ce n'était pas le cas. Le château, qui est la résidence du seigneur, était souvent collé serré avec la ville à cette période parce qu'il attirait les habitants. En revanche, le château était souvent un peu surélevé, ce qui est bien le cas dans le film.
C'est gagné.
Et le village, dans tout ça?
Bah c'est pas trop mal, mais il manque peut-être un petit peu de densité dans le décor.
Et là encore, explication technique.
Ah oui, parce que construire un décor, ça coûte un bras. Et quand ça coûte un bras, bah on privilégie l'ambiance sur la reconstitution fidèle du passé.
Pareil pour l'ambiance barbecue.
Si tu viens avec moi, je te promets le plus succulent gibier, le plus abondant que tu aies jamais mangé. Du bœuf, de la hure de sanglier, des tonneaux de bière.
C'est vrai qu'il passe tout à la broche.
Ça donne l'image de vrais mecs qui chassent, qui bouffent à la bonne franquette et avec les mains.
Et des animaux entiers.
Et leurs vasques sont remplis de fruits à foison.
Tout ça pour montrer qu'ils s'en mettent plein la panse.
Pareil chez les seigneurs, à part qu'ils sont un peu plus distingués. À la cour du prince Jean, on mange du bout des doigts, mais proprement.
On sert dans des carafes en argent et on boit dans des calices et des cornes en or.
Anachronisme !
On ne boit pas dans des cornes au XIIe siècle.
C'est un peu comme si Louis XIV buvait dans une canette de soda.
Voilà, mais comme le décor est au service du message et de l'intrigue, on se passe des précisions chronologiques, à quelques siècles près.
Ah oui, on fait la cuisine dans la salle du banquet aussi.
Ah non, ça c'est pas possible.
Ici, le metteur en scène a voulu tout montrer dans un seul et même plan. Depuis l'embrochage du cochon jusqu'à la dégustation du raisin, le tout avec un beau travelling.
En fait, la cuisine se faisait dans une autre pièce pour éviter les odeurs et les risques d'incendie. Mais finalement, est-ce que la mise en scène c'est pas ça qui compte au cinéma?
Au détriment des faits historiques?
Mais oui, le cinéma c'est un permis de voyage, un rêve qui devient réalité, une nuit trop courte.
Oui, enfin surtout, ça permet de refaire l'histoire.
Et de réviser nos classiques.
Je vous parle aujourd'hui d'une très belle BD sortie aux éditions Soleil le 29 janvier. Il s'agit d'Un parfum de soie d'Isabelle Plongeon, Carole Bretto et Dana Dima. Nous voici en l'an 1826, aux portes de Tokyo. Isako est la fille d'un tisserand. Il travaille avant tout pour les Okiya, les maisons des geisha. Lors d'une livraison de kimono, il emmène Isako avec lui, et ce jour-là, il la vend à l'Okiya. Elle quitte alors sa mère, Fuyumi, son père, Tanaka et Ryu, l'apprenti tisserand. La jeune Isako entame une étrange vie, où le destin de geisha la rattrape, et les mystères qui entourent sa famille aussi. Car autrefois, Fuyumi était geisha, parce que dans les soirées de la belle société, Isako rencontre Chiori et Daichi, ses propres sœurs, dont elle n'a jamais entendu parler. Pourquoi donc Fuyumi et Tanaka ont-ils vendu leurs trois enfants? Au travers de cette intrigue familiale se joue surtout la quête d'une jeune fille pour devenir femme. Et coincée entre la domination des hommes puissants et la culture du raffinement des geisha, le mot « femme » devient synonyme de « guerrière », avec pour seule armure un kimono de soie. Et quel kimono! Autant le graphisme d'Un parfum de soie est très scolaire, c'est d'ailleurs le même graphisme que l'on retrouve dans la série Elf ou Sillage chez Delcourt, autant Dana Dima et ses coloristes nous en envoient plein les yeux avec les tissus. Les kimonos sont magnifiques, délicats, ravissants, chargés en paysages, de motifs floraux finement dessinés, rien que pour les admirer, ça vaut le coup d'ouvrir cette BD. Du reste, les décors nous emportent dans le magnifique vieux Japon, quoiqu'un petit peu fantasmé. Un seul point noir sur le graphisme, c'est son effet statique. Le dessin a du mal avec la vivacité des mouvements. À part une planche très importante du récit, la gestuelle des personnages reste figée. Et c'est dommage, puisqu'à la fin du récit, tout s'accélère. On voit bien que le scénario est à un point de bascule, que la chute est vertigineuse, mais l'image a du mal à nous faire chuter avec lui. Et le schéma se reproduit un peu du côté scénario. Rapidement, voici le point faible que je lui trouve. Il y a deux parties au récit, l'entrée d'Isako dans le monde des geisha et sa route vers la cérémonie qui fera d'elle une geisha accomplie. Sauf qu'il y a une ellipse de 5 ans au milieu, alors certes on saisit ce qu'il se passe, quels ont été les éléments importants de ces 5 années, mais on sent comme un gouffre entre les deux, comme si la césure n'était pas volontaire, et c'est sans doute le cas, avec la limitation du nombre de pages par exemple. En tournant la page, on a donc vraiment l'impression qu'il manque un chapitre entier. Mais bon... Avec les points forts qui suivent, on lui pardonne tout à fait ce saut à vide de 5 ans. L'histoire d'Isako, cet enfant qui se fait balloter dans le monde très codifié des geisha, nous permet d'en découvrir de nombreuses facettes. Elle nous dévoile une discipline traditionnelle japonaise oubliée, le kodo. Un des trois arts traditionnels japonais avec la cérémonie du thé et l'ikebana, l'art de la composition florale. Le kodo est l'art de faire écouter des fragrances. Elles sont exhalées par des bois parfumés que l'on brûle selon certaines règles. La geisha compose un paysage olfactif avec les fumées. Ce quelque chose que nous, dans notre société moderne, on a oublié. Les parfums sont profondément rattachés à nos souvenirs. Ce sont nos petites madeleines de Proust qui nous saisissent sans prévenir. Ces parfums qui nous plongent dans nos voyages intérieurs, tendres et doux. L'odeur des nuits d'été, l'humus et le goudron après la pluie. L'odeur du thé sucré ou celle des vieux livres un peu vanillés. En cela, le graphisme donné aux odeurs permet de s'approprier la discipline. Un parfum de soie nous plonge dans nos propres souvenirs, tout en nous présentant les traditions japonaises. Cette BD, Parfum de soie, est une belle découverte, dont le récit évoque par plusieurs aspects le film Mémoire d'une geisha, lui-même une version romancée d'une autobiographie du même nom. Comme ce récit-là, ce que montre Parfum de soie, c'est la lutte de femmes sous le poids de la tradition. Cette tradition qui veut qu'elles soient objets de contemplation par leur beauté et leur art, objets de désir pour les hommes qui les prendront en charge. Ce n'est pas juste une histoire de geisha, c'est surtout l'histoire de filles qui rêvent de devenir femmes libres. Et cela, Parfum de soie arrive très bien à nous le faire sentir. C'est donc Parfum de soie à retrouver aux éditions Soleil pour 23 euros.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire des contes d'Afrique du Nord. Enfin, un conte. Ce conte s'appelle « La ruse du hérisson » et c'est un conte marocain. Le hérisson se roule en boule et hérisse ses piquants à l'approche du danger. Mais il sait aussi utiliser la ruse pour se tirer d'embarras. Un fela avait engraissé un mouton durant plusieurs mois. Il l'égorgea à l'occasion de l'Aïd. L'animal était si gros en cette année-là qu'il ne put en manger qu'une partie avec sa famille. Le reste fut découpé, salé, séché au soleil, avant d'être mis dans une grande jarre. Un jour, où elle puisait dans la réserve de viande, la femme du fela s'aperçut que certains morceaux commençaient à se couvrir de moisissures. Elle décida de sortir la jarre. Elle la mit au soleil pour que la moisissure sèche et disparaisse, et alla vaquer aux tâches de la maison. Le chacal et le hérisson passaient par là. Ils flairèrent la viande. « Voici l'occasion de faire un bon repas, » dit le chacal. Il appuya ses deux pattes avant sur la jarre, plongea la tête à l'intérieur et dévora plusieurs morceaux de viande. Est-ce qu'elle est bonne ? Demanda le hérisson. Elle est délicieuse et je me régale, même si elle est un petit peu salée. J'aimerais bien y goûter. Approche-toi et mange. Je ne suis pas assez grand pour pouvoir atteindre la viande. Alors le chacal, qui était repu, saisit son compère par une patte et le déposa dans la jarre. Le hérisson put se régaler à son tour. Dès qu'il fut rassasié, il appela le chacal. J'ai terminé mon repas, lui dit-il. « Aide-moi à ressortir de là. »« Pas question. Tu m'as souvent joué de mauvais tours, et l'occasion m'est enfin donnée de me venger. Tu vas rester dans cette jarre, et tant pis pour toi si la viande de hérisson est très appréciée des félins. Puisque je suis condamné à une mort certaine, je vais te parler d'un gros trésor que tu dois t'engager à partager avec mon fils. »« Avec ton fils ? C'est juré !» s'exclama le chacal. « Approche-toi, » ajouta le hérisson en baissant la voix. « Je vais t'indiquer où il est enterré. » Le chacal plongea sa tête dans la jarre. Aussitôt, le hérisson s'accrocha fermement avec les dents et à l'une de ses oreilles. Sous l'effet de la douleur, le chacal recula brutalement, entraînant son compère hors de la jarre. Grâce à la ruse, le hérisson fut sauvé. Il s'éloigna sans prendre congé du chacal et jura de l'éviter. Quant au fela et à sa femme, ils ne surent jamais qui s'était servi dans la jarre.
On est de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Je vous rappelle que cette émission vous est proposée du lundi au vendredi de 11h30 à midi et de 16h30 à 17h, et ce pour toute la durée du confinement. Maintenant, on va se détendre un peu, parce que ça fait du bien, avec les deux premiers épisodes d'une série policière radiophonique remplie d'humour, faite par Radio Campus Bordeaux.
Encore en retard, Jackson.
Me prends pas la tête, Kelly, j'ai eu un problème avec ma voiture.
À défaut d'être à l'heure, tu es de bonne humeur.
C'est qui, lui?
C'est le témoin qu'on a retrouvé près de la scène de crime ce matin. Je t'ai imprimé son dossier.
J'imagine que c'est à moi de l'interroger.
À moins que tu veuilles prendre un petit café avant.
Ah bah c'est pas de refus.
Et je fais quoi? Je rigole maintenant ou on se met au travail?
Monsieur Lewis, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Vous êtes un homme de type caucasien, 1m80, 70 kg, bélier ascendant gémeaux, votre couleur préférée est le mauve et vous êtes allergique aux fruits de mer.
Mais comment vous savez tout ça?
Ce n'est pas à vous de poser les questions. Monsieur Lewis, c'est bien vous qui avez découvert le corps ce matin ?
Oui, c'est moi.
Ça ne sert à rien de nier, on sait que c'est vous.
Mais oui, mais c'est ce que je viens de vous dire.
Excusez mon collègue, il a pas les idées très claires, il vient tout juste de se réveiller.
J'ai pas fait la grasse matinée, j'ai eu un problème avec ma voiture.
Ah oui, excuse-moi, le réveil qui sonne pas, c'était la dernière fois.
Donc, vous avez trouvé le corps à 6h30, c'est bien ça ?
Oui, en faisant mon jogging.
C'est la première fois que vous tombez sur un cadavre en faisant votre jogging ?
Ce mois-ci, oui.
Avez-vous tenté de réanimer la victime ?
Non.
Pourquoi ?
Eh bien, d'une part, je ne connais pas les soins de premier secours, et en plus, il y avait une énorme flaque de sang sous la victime.
Et vous en avez déduit qu'elle était morte ?
Oui, c'est bien ça.
La victime est un homme ou une femme ?
Une femme.
Tu le saurais si t'avais lu le dossier.
On peut se concentrer sur l'interrogatoire ?
Tu sais, Jackson, j'y pense que maintenant, mais tes absences vont souvent de pair avec les découvertes de scènes de crime.
Je peux faire mon travail, là ? Ça devient lourd.
Au fait, t'as vu les photos de la victime ?
Non, pourquoi ?
Ça ne va pas, Jackson ? Tu veux que je rapproche la photo ?
Si je te dis pourquoi je ne viens pas sur les scènes de crime, tu retires cette photo ?
Très bien, je t'écoute.
Mais avant, il faut que tu me promettes de garder le secret.
Tu peux me faire confiance. Je travaille pour le gouvernement.
J'ai la phobie du sang.
Le grand Jackson a peur du sang, ça c'est la meilleure.
On peut parler d'autre chose maintenant ?
C'est pas un peu handicapant dans votre métier ?
Non mais vous allez pas vous y mettre, vous aussi !
Oh, excusez-moi, hein, c'est juste pour savoir.
Ça aide pas, c'est sûr.
Si ça peut vous rassurer, moi non plus je ne supporte pas la vue du sang. D'un autre côté, je travaille dans les assurances, donc c'est vrai que je suis moins souvent confronté à ce genre de situation.
Si ça peut te rassurer, Jackson, moi il y a un gars dans ma famille, il est facteur, alors qu'il est allergique au papier.
Et encore, ça c'est rien. Moi, mon oncle, il est chirurgien, alors qu'il a la maladie de Parkinson.
Moi j'avais un pote à la fac, il était catcheur, alors qu'il avait la maladie des os de verre.
Oui bon, ça va. Donc si je résume, après avoir découvert le corps, vous avez appelé les secours, c'est bien ça ?
Oui, en effet.
Ce matin, quand on est arrivé, pourquoi vous n'étiez pas présent sur les lieux ?
J'étais juste à côté, à la boulangerie.
Une boulangerie bio ?
C'est important.
Les détails, ça m'aide à visualiser la scène.
Non, j'ai pas souvenir.
Et après ?
J'ai acheté un sandwich au poulet.
Et pourquoi avoir fait ça ?
Parce que j'aime bien le poulet.
Non, je veux dire, pourquoi avoir quitté les lieux du crime avant l'arrivée des policiers ?
Attends, on n'est pas sûr que ce soit un crime.
Oui, enfin, vu la flaque de sang, je doute que ce soit un accident.
Vous pensez que ça pourrait être le serial killer ?
Wow. Pas d'amalgame. Que dit le rapport des experts ?
D'après le rapport, la victime est morte de raisons inconnues.
Oh, c'est pointu comme analyse. Je vais au labo, bougez pas.
Entrez.
Stevens, d'après votre rapport d'analyse, la victime retrouvée ce matin est morte de raisons inconnues, alors qu'on l'a retrouvée noyée dans son sang.
J'ai peut-être omis certains détails.
Oui, peut-être. Et au risque de me répéter, ce n'est pas parce que vous êtes dans votre labo que ça vous dispense de mettre un pantalon.
Excusez-moi, sergent, mais je le retrouve pas.
Comment ça, vous le trouvez pas ? Il a pas pu disparaître.
Je pensais l'avoir laissé dans le coffre de ma voiture, mais je me suis rappelé que j'avais pas de voiture.
Ce matin, quand vous êtes arrivé au boulot, vous aviez un pantalon ?
Oui, j'en portais un. Enfin, je crois.
Comment ça, vous croyez ?
La force, c'est devenu tellement une habitude, j'y fais même plus gaffe.
Bon, revenez me voir quand vous aurez fini le rapport d'analyse.
Si vous remettez la main sur mon pantalon, faites-moi un signe ! Sergent ?
Pas maintenant, McFly, je suis pas d'humeur.
Votre rendez-vous de 13h, Monsieur Wilson, est arrivé.
Bonjour, Monsieur Wilson. Toutes mes condoléances pour votre sœur.
J'espère que vous allez mettre la main sur cet enfoiré de serial killer.
Je peux vous assurer que tous nos services travaillent d'arrache-pied pour le coincer.
McFly, tu peux raccompagner Monsieur Lewis, il faut que je parle avec Jackson.
Monsieur Wilson, allez m'attendre dans mon bureau. J'en ai pour un instant.
Désolé de m'être moqué de ton problème tout à l'heure. Si tu veux, j'ai un ami psychologue. Je pourrais t'arranger un rendez-vous.
C'est gentil, mais ça va aller.
Il faut que tu te fasses soigner, Jackson.
Oui, mais là, j'ai des problèmes plus urgents à régler.
Mais comme quoi ?
Il faut que...
Que quoi ?
Que je retrouve le pantalon de Stevens.
Si tu veux pas de mon aide, je vais en parler avec la direction.
Non, Kelly, reviens ! Reviens, Kelly !
Monsieur Wilson, je vous en prie, installez-vous, mon collègue va avoir un peu de retard. Avant de prendre votre déposition, je vais vous faire passer un petit questionnaire pour établir votre profil. C'est très simple, il suffit de répondre par oui ou par non. Première question, quelle est votre date de naissance ?
Comment je suis censé répondre oui ou non à cette question ?
Autant pour moi, il n'y a pas de contrainte pour ce questionnaire.
Je suis né le 18 novembre 1987.
Êtes-vous marié ?
Seulement avec mon travail.
Et vous faites quoi dans la vie ?
En ce moment, je suis au chômage. Mais sinon, je suis professeur des écoles.
Avez-vous des enfants ?
Non.
Est-ce dû à un problème de stérilité ?
Non, je n'ai pas d'enfants parce que je n'ai jamais essayé d'en avoir.
En tout cas, ça expliquerait pourquoi vous n'êtes pas marié.
Si je ne suis pas marié, c'est parce que je suis encore jeune. Et que j'ai envie de profiter de la vie, voilà tout.
D'un autre côté, vous devez économiser pas mal en contraceptif. Hein.
Je crois qu'il y a un petit malentendu.
Moi, si je vous dis ça, c'est pour désamorcer la situation.
Quelle situation ?
Je sais que c'est pas évident d'en parler comme ça à un inconnu, mais moi, je ne vous juge pas.
Écoutez, je n'ai jamais voulu d'enfant, et c'est uniquement pour cette raison que je n'en ai pas.
Attention, hein, c'est pas un reproche que je vous fais. J'ai des amis qui ont des enfants, et j'ai pas l'impression qu'ils soient plus heureux pour autant.
Je veux que ce soit clair. Je n'ai aucun problème de stérilité, d'accord ?
Ne vous en faites pas. De toute façon, c'est une question facultative, ça n'apparaîtra pas dans votre dossier. Question suivante. Vos parents sont-ils encore vivants ?
Oui, ils le sont.
Sont-ils au courant de votre problème de stérilité ?
Pour la dernière fois, je ne suis pas stérile !
Après, si ça vous gêne d'en parler, il faut me le dire. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas.
Monsieur Wilson, revenez ! J'ai encore plein de questions à vous poser !
Laisse-moi deviner, McFly. Tu as parlé à quelqu'un sans que je t'en donne l'autorisation.
Non, mais je voulais aider.
À l'avenir, j'aimerais que tu arrêtes avec ton questionnaire.
Quoi ? Qu'est-ce qu'il a, mon questionnaire ?
Monsieur Wilson vient de perdre sa sœur et toi, tu lui annonces qu'il est stérile.
Ah mince, dure journée.
Je pense qu'il faut que tu arrêtes de parler avec des gens. Moi, quand tu fais ça, ça me file une angoisse. Je pourrais te tuer, je crois, hein, mais bon, là, j'ai pas le temps. Il faut que je rattrape Monsieur Wilson. Mais tu vas pas t'en tirer comme ça. Monsieur Wilson, attendez !
McFly, je peux te parler une minute ? Tiens, c'est le dossier que tu m'as imprimé.
Oui, et alors ?
Y a pas quelque chose qui te choque ?
Quoi ? Je me suis trompé d'interligne ?
Pourquoi ? T'as imprimé en fuchsia ?
Bah, c'est pas ma faute, y avait plus d'encre noire.
Eh ben, fallait en racheter ! Allô ? Allô, McFly ? Je vais pas toujours être derrière toi pour attraper des conneries. Bon ben, reste pas planté là, va me le refaire !
Hola, Kelly ! Te gusta el café ?
Tu parles espagnol maintenant ?
Je viens de finir les analyses de sang et vous aviez raison. Il s'agit bien d'un meurtre.
C'est bien ce qui me semblait.
Je voulais te demander un truc. Est-ce que tu aimes la paella ?
Je vois pas le rapport avec l'affaire.
Non, mais oublie l'affaire un instant. Est-ce que tu aimes la paella ?
Je suis pas sûre de comprendre.
Je ne te demande pas de comprendre, mais de ressentir.
Je sens que t'es trop proche de moi.
Excuse-moi, c'est mon côté latino.
Stevens, c'est latino.
Non, mais ça pourrait le devenir.
Ah, Stevens, vous avez enfin remis la main sur votre pantalon.
Jackson, je pense que Monsieur Lewis ne nous a pas dit toute la vérité. Ça pourrait être bien de le réinterroger.
Qu'est-ce qui te fait penser ça ?
Son alibi ne tient pas la route. J'ai appelé le vendeur de la boulangerie et il ne se souvient pas l'avoir vu ce matin.
En même temps, il doit en voir tellement des gens, il ne peut pas se souvenir de tout le monde.
Mais il y a autre chose. Le boulanger en question ne vend pas de sandwich au poulet.
Ah, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle un retournement de situation.
Stevens, votre braguette est ouverte.
McFly, convoque Monsieur Lewis pour un interrogatoire.
Coucou, comment ça va ?
Ah, Bobby, trop cool, t'as pu te libérer. Jackson, je te présente Bobby Miller, c'est le psy dont je t'ai parlé.
Bonjour Monsieur Jackson, enchanté.
De même.
Tu vas voir, Bobby est un grand professionnel.
On peut se voir au calme pour la consultation ?
Ah, parce que ça commence maintenant ?
Oui, t'as qu'à te poser dans mon bureau, il est juste au fond du couloir.
A tout de suite, Monsieur Jackson.
Sergent, je peux m'entretenir avec vous ?
Vous avez pu refaire les rapports d'analyse ?
Vous pensez que j'ai mes chances avec l'inspecteur Kelly ?
C'est quoi le rapport avec l'affaire ?
Je voulais l'inviter à manger une paella, mais j'ai peur qu'elle n'ait pas compris le message.
Je sais pas quoi vous dire, c'est vrai qu'à vous trimballer sans pantalon, ça joue pas en votre faveur.
À ce propos, vous ne devinerez jamais où je l'ai retrouvé.
Vous êtes sûr que c'est une bonne idée qu'on en parle maintenant ?
À la morgue ! Je l'avais laissé sur un cadavre. Je travaille sur un tout nouveau spectacle de marionnettes, grandeur nature.
Vous réalisez que l'inspecteur Kelly est juste derrière nous ?
Non, mais vous en faites pas, elle va s'endormir.
Comment ça, elle va s'endormir ?
J'ai mis de la drogue dans son café.
Vous avez fait quoi ?
Non mais vous en faites pas, elle va se réveiller dans quelques heures. Ou quelques jours.
Sergent ?
Quoi, McFly ?
Ah bah, c'est juste pour vous dire que Monsieur Lewis vous attend en salle d'interrogatoire.
Ah ben, ça a été rapide.
Eh ben, juste le temps de le sortir de sa cellule.
Mais qu'est-ce qu'il faisait en cellule ?
C'est vous qui m'avez dit de le ramener tout à l'heure ?
De le ramener dehors, pas en cellule, c'est un témoin, pas un meurtrier.
Oui bah, au moins on a gagné du temps.
Barre-toi, tu m'énerves !
Et qu'est-ce qu'on fait avec l'inspecteur Kelly ?
Je m'en occupe !
Non, vas-y McFly.
J'en fais quoi ?
Mais je sais pas, trouve-lui un endroit confortable ! Il faut qu'on parle tous les deux.
Venez par là, inspecteur.
Stevens, je sais plus quoi faire de vous.
Oups ! Désolé.
Droguer ses collègues, c'est une faute grave.
Pardon ! Je vais faire gaffe.
Je vous donne un avertissement.
Alors fichez-moi le camp.
Décidément, il y a beaucoup d'assiettes dans ce bureau. Quelqu'un peut m'aider? Non? Personne? Bon, bah, c'est pas grave. Je vais me débrouiller.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour En attendant que le monde change, même heure et même place. On va se quitter en musique avec O Sorriso de Narinia par Trio Mokoto. Prenez soin de vous, continuez à vous protéger et écoutez Radio Campus Tour 99.5 FM. C'était Philippe au micro. Salut à toutes et à tous.
Quero voltar, moço, quero voltar. Deixa eu ir no bagageiro, porque não tenho dinheiro. E se der algum problema, Narinha vai me esperar. Eu sei que o sorriso dela, qualquer galho vai quebrar. Quero voltar, moço, quero voltar. Deixa eu ir no bagageiro, porque não tenho dinheiro. E se der algum problema, Narinha vai me esperar. Eu sei que o sorriso dela, qualquer galho vai quebrar. Mas nem que me apontem um fuzil, nunca mais eu deixo meu Brasil. Porque aqui não tem Narinha, e a mulata ninguém viu. Margarete pensou que eu fosse louco, e o amor que ela tinha me dado era pouco. No banho de oco saí com sabão, e oco ficou com a toalha na mão. Fui correndo apanhar o meu violão, e pensando em Narinha fiz esta canção. Quero voltar, quero voltar. Deixa eu ir no bagageiro, porque não tenho dinheiro. E se der algum problema, Narinha vai me esperar. Eu sei que o sorriso dela, qualquer galho vai quebrar. Quero voltar, moço, quero voltar. Deixa eu ir no bagageiro, porque não tenho dinheiro. E se der algum problema, Narinha vai me esperar. Eu sei que o sorriso dela, qualquer galho vai quebrar. Mas nem que me apontem um fuzil, nunca mais eu deixo meu Brasil. Porque aqui não tem Narinha, e a mulata ninguém viu. Margarete pensou que eu fosse louco, o amor que ela tinha me dado era pouco. No banho de oco saí com sabão, e oco ficou com a toalha na mão. Fui correndo apanhar o meu violão, e pensando em Narinha fiz esta canção. Quero voltar, moço, quero voltar. Deixa eu ir no bagageiro, não tenho dinheiro. E se der algum problema, Narinha vai me esperar. Eu sei que o sorriso dela, qualquer galho vai quebrar. Quero voltar, moço, quero voltar. Deixa eu ir no bagageiro, porque não tenho dinheiro. E se der algum problema, Narinha vai me esperar. Eu sei que o sorriso dela, qualquer galho vai quebrar. Eu sei que o sorriso dela, qualquer galho vai quebrar. Eu sei que o sorriso dela, qualquer galho vai quebrar.